Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On convient ce matin que le collectif donne une force d'action inestimable et on le constate dans le village de Manspach en Alsace. Annie Dittmann, quand je vous ai écrit l'autre jour en vous disant je vais passer vous voir, vous étiez très content, mais ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas vu. Je vous avais interviewé dans les premières années Terre à Terre, ça remonte maintenant à plus de 10 ans. J'étais déjà venue dans votre village d'Alsace, Manspach. Et vous m'aviez montré à l'époque tout le travail qui avait été fait pour récupérer complètement une rivière qui avait subi tous les outrages possibles et imaginables. Il y avait les pesticides, il y avait le fait qu'on avait supprimé des méandres, il y avait les inondations, il y avait les voies navigables de France qui prenaient l'eau et qui faisaient courir des risques d'étiage, d'assèchement carrément. Il y avait absolument tout ce qui était possible et vous m'aviez parlé de ce travail de très longue haleine avec, je crois, une cinquantaine de communes du bassin de la Largue pour récupérer cette rivière. C'était assez impressionnant. C'était aussi, me semble-t-il, une de vos caractéristiques, ce travail sur le très long terme, un travail au long cours. Travail au long cours qui a été rendu possible en partie par un détail vous concernant et qui ne vous enchante pas plus que ça. Le fait que vous êtes maire de votre commune depuis maintenant plus de 30 ans. Et vous avez l'air de penser que ça serait aussi bien d'arrêter, mais finalement, cette longévité, ça vous donne aussi un regard différent et aussi peut-être une échelle différente pour pouvoir traiter les problèmes qui vous tiennent à cœur, souvent des problèmes qui concernent l'environnement. Une autre de vos caractéristiques, c'est que vous n'êtes jamais seul. Et aujourd'hui, vous arrivez très accompagné pour parler de tout ce qui se fait dans cette région. Et donc, en fait, ce que je vous demande, c'est de nous raconter l'histoire de ce travail collectif qui engage énormément de gens à des postes très divers, dans des sujets très divers. Je pensais en arrivant ici que ça me rappelait le premier événement où je suis allée pour Terre à Terre. En 99, c'était les journées d'été des Verts. Et il y avait, dans différentes salles, un atelier sur l'eau, un atelier sur les déchets, un atelier sur l'énergie. Je trouvais tous ces ateliers tout à fait passionnants et je me disais quand même, ce qui manque, c'est d'arriver à les faire se rencontrer, d'arriver à faire que le spécialiste de l'eau puisse parler au spécialiste de l'énergie et au spécialiste des déchets, parce qu'ils ont certainement des choses à se dire. En fait, c'est un peu ça qui se passe ici et vous allez nous le raconter. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ? Par la maison de la nature, vous pensez ? C'est ça le point de départ ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah, mais je pense effectivement que la maison de la nature, c'est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Et je pense que on ne se serait pas lancé dans tout ça si on n'avait pas eu effectivement cette initiation à la nature, à l'environnement. Parce que quand vous avez des gens qui ont déjà été formés, c'est-à-dire des enfants, des jeunes, à cette nature, à cet environnement, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de facilité à avancer sur le terrain. Donc, c'est clair que ma priorité absolue, en tant qu'ancien prof, hein, c'est sûr que c'est l'éducation à l'environnement qui est déterminante.
Mais vous n'allez pas me dire que les gens qui sont ici ont été des enfants qui sont passés à la maison de la nature et de l'environnement, j'y crois pas. Mais par contre, cette maison, elle a été créée quand ?
La maison de la nature a été ouverte en 1998 avec notre directeur, Éric Cossilio, que nous avons recruté à l'époque et qui est toujours là.
Vous arriviez de loin, vous étiez allé à Madagascar avant ?
Oui, je travaillais à Madagascar. Quand je suis arrivé ici, je venais d'Angers, en fait. Je travaillais à l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Et j'ai la chance d'arriver ici où, en fait, quand je suis arrivé ici, les bâtiments de cette maison étaient en construction. Donc c'était un projet à créer de A à Z avec carte blanche, puisque en fait le projet de bâtiment était assez complet, assez conséquent, mais le projet pédagogique n'était pas très élaboré. Donc on a pu avoir une grande liberté de mettre en place cette structure qui aujourd'hui touche à peu près 5000 personnes par an. Et qui travaille beaucoup avec la jeune génération.
Cette liberté, ça permettait d'expérimenter des choses ?
Alors, Oui, on a beaucoup expérimenté. On a eu la chance, justement, de pouvoir travailler sur des projets pédagogiques très longs. Ça fait d'ailleurs, quand on regarde notre projet éducatif, ça fait partie de nos valeurs, les valeurs affichées, c'est d'essayer de travailler le plus possible dans la longueur. Quand on travaille avec des enfants, c'est d'essayer de les avoir le plus longtemps possible à la maison de la nature pour travailler avec eux sur des temps très longs, qui nous permettent de faire passer plein de choses, tant sur la connaissance de la nature, de l'environnement, que sur des valeurs personnelles, d'épanouissement personnel, de vivre ensemble, enfin tout un tas de valeurs qui sont très intéressantes pour l'avenir de notre société, en fait, finalement. Éducation environnement, c'est vraiment un support formidable pour faire ça.
Par exemple ?
Par exemple, des camps de vacances, des colonies de vacances. Alors, on va faire une colonie sur le thème du castor, on va aller voir des castors, on va aller faire des affûts, mais c'est aussi un moment où pendant une semaine, 20 gamins vont vivre ensemble. Ils vont faire la vaisselle ensemble, ils vont élaborer un programme d'activité ensemble, ils vont élaborer tout un tas de règles de vie communes, et ça, ils n'ont pas forcément l'habitude de le faire, et c'est une manière d'apprendre à vivre ensemble, tout en essayant de pouvoir s'exprimer soi-même sur ses envies, toujours se construire dans l'altérité avec les autres. Nous, notre philosophie éducative, elle se veut de l'éducation populaire. Et donc on est dans ce courant-là, effectivement, des années 70, 80, 90, qui a l'air effectivement très classique, mais qui, aujourd'hui, dans les années 2014, 2015, malheureusement, la colonie de vacances, c'est quelque chose en voie de disparition. Et voilà. Donc nous, ici, on essaie de développer des projets très, très longs. Par exemple, on arrive à faire des projets où on intervient 10 jours dans une classe. On travaille pendant 10 jours avec l'enseignant et les élèves, et par exemple sur l'élaboration d'un sentier d'interprétation, et ce sont les gamins qui vont apprendre ce que c'est que le territoire, définir des thèmes sur lesquels ils ont envie de travailler, les explorer, les développer, les apprendre, et puis après les traduire en dessin, en texte, mettre ça en page, et puis communiquer vis-à-vis du reste des habitants du territoire. Ce qui est important à l'éducation environnement, c'est que c'est comme quand on fait de la peinture, hein, c'est la sous-couche. Si on n'a pas mis la sous-couche sur le mur, la peinture ne tient pas après. Et bien là, l'éducation environnement, c'est pareil. Et pendant 15 ans, on passe des messages, on fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui se réalisent parce que il y a des enfants qui sont passés ici il y a 15 ans. Et tout à l'heure, vous disiez que l'équipe de la nature n'était pas passée comme enfant ici, mais on a des animateurs maintenant qui interviennent sur nos colos de vacances qui ont été des gamins. Et ça, c'est vraiment super, quoi, parce qu'on sent qu'on a réussi à passer quelque chose.
Bon, alors on a la sous-couche.
Aujourd'hui, la maison de la nature, c'est facile de construire une maison de la nature. On prend un architecte, on construit. Mais la maison de la nature, c'est comme un œuf. Ce qui est important dans l'œuf, c'est pas ce qu'il y a autour. C'est pas la maison elle-même, c'est ce qu'on a dedans. C'est l'humain qui est dedans. Et c'est grâce effectivement à l'équipe, au niveau du nombre des salariés, donc ça non plus c'est conséquent d'avoir autant de personnes qui travaillent effectivement pour l'environnement sur un territoire comme le nôtre, eh bien on arrive ensuite à irriguer le terrain de toute une vallée, de tout un bassin, avec ce qui se fait effectivement dans la maison de la nature.
Et puis, la suite.
Et puis, la suite, c'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Parce que nous avons décidé, effectivement, d'articuler toutes nos activités autour de la rivière, avec 58 communes, en fait. Toutes les communes du bassin versant, nous sommes mis ensemble, avec des objectifs clairs, concernant notamment l'avenir de l'eau sur le bassin versant. C'est ça qu'on a voulu. Et bizarrement, d'un conseil municipal à l'autre, auprès de mes collègues, ils m'ont tous dit « Ok, on y va ». Mais aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des problèmes qui ont été évoqués ont été résolus dans un état d'esprit tel que chacun a donné le maximum de lui-même, et que si on prend le coût, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'économie, si on prend le coût effectivement de toutes les actions que nous faisons au travers de l'amélioration de l'hydrosystème du bassin versant de la Largue, on se rend compte effectivement que le coût est de 2,72 € par habitant et par an. Pour faire disparaître quasiment les inondations en zone humide, pour retrouver la totalité des espèces halieutiques dans le cours d'eau, pour faire en sorte finalement de reconquérir une grande quantité des zones humides, et puis faire en sorte qu'on n'ait plus un seul point de captage qui soit hors norme.
Hors norme d'eau potable.
Hors norme d'eau potable, ce qui est très important. L'eau potable, c'est ça en fait l'avenir du bassin. On a une population qui augmente quand même sensiblement. On a une économie également qui peut se développer, qui a besoin effectivement de ressources en eau de qualité. On n'a pas seulement un souci petits oiseaux, hein, c'est pas ça du tout. C'est l'ensemble, c'est à la fois les oiseaux et à la fois effectivement l'entreprise qui veut s'ouvrir. Et c'est à la fois finalement la manière de vivre ensemble autour de l'eau.
Mais alors, vivre ensemble autour de l'eau, ça implique tout de même de continuer à s'en occuper. C'est-à-dire, vous dites que les problèmes sont résolus, mais vous n'arrêtez pas pour autant d'avoir un regard sur ces questions. Qui s'en occupe ici?
Voilà. Alors évidemment, les seuils, on les connaît. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que on a dû faire en sorte, avec les collègues, de mettre en place des schémas d'aménagement et gestion des eaux, et de mettre en place sur le terrain une personne, une interface, qui permette effectivement de récolter tous les problèmes qui se passent au niveau de l'eau à l'échelle du bassin versant, de les transmettre et d'élaborer des solutions. Donc là, il y a deux personnages qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des jeunes complètement investis dans le domaine de l'eau. Donc il y a Hugo, c'est un homme qui rêve la pêche, qui vit la pêche et qui défend tout ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre porter atteinte effectivement à ses chéris que sont les poissons. Hugo, de par sa passion de la pêche, c'est un homme transparent dans la nature, on ne le voit pas. Il est complètement intégré à son milieu. Et cette capacité de s'intégrer au milieu lui permet de révéler tous les dysfonctionnements qu'on ne voit pas. Il a cette sensibilité, il joue. Pour lui, la rivière, c'est un petit peu un instrument de musique, une harpe. Et il arrive avec une facilité déconcertante à en sortir finalement toutes les sonorités.
Alors Hugo Linert, vous pouvez nous raconter ce que ça représente de sillonner comme ça ce bassin versant de la Largue?
Les gens ne font pas souvent la relation entre la rivière et l'eau qu'ils ont au robinet. Et c'est quelque chose de très très important. La rivière, à un moment, c'est l'endroit, la rivière et la zone inondable, c'est les endroits, les zones d'infiltration privilégiées de l'eau. C'est ces endroits-là qui vont constituer nos ressources qu'on va utiliser pour l'eau potable. Et donc souvent, moi, quand je rencontre des gens sur le bassin versant, ils me disent « Ah, Ousmane, vous êtes bien, vous vous occupez des petits poissons, des petits oiseaux. » Et on leur répond que non, on s'en occupe des petits oiseaux, des petits poissons. Mais si on a plein de petits poissons dans la rivière, ça veut dire qu'on a une rivière qui est dont l'eau est de bonne qualité, une rivière qui est vivante, qui fonctionne comme elle doit fonctionner. Et de ça découle une ressource en eau potable qui est de bonne qualité, facilement accessible, et qu'on n'a pas besoin forcément de traiter à outrance avant de la distribuer aux populations. Ça, c'est assez important. Si on travaille sur la rivière, donc le président l'a dit, on est à peu près à 2,70 € et quelques de coûts en moyenne à l'habitant à l'année. Ça permet d'avoir des ressources d'eau potable qui sont pérennes et de bonne qualité. Quoi. Ça,
c'est curieux. Moi, je pensais que vous alliez me parler plutôt de tous les conflits qui naissent autour de l'eau. Il y en a énormément, en fait. L'eau, c'est quelque chose qui unit les territoires, mais c'est aussi quelque chose qui désunit terriblement les gens. L'agriculteur qui veut mettre des pesticides pour obtenir une meilleure récolte et le pêcheur qui voudrait trouver poisson au bout de son hameçon, par exemple.
Alors, c'est un petit peu réducteur de comparer l'agriculteur à l'homme qui va mettre des pesticides et qui va polluer, et puis de le mettre en opposition au pêcheur qui va pêcher ses poissons pour éventuellement se nourrir, ce qui d'ailleurs n'est plus forcément, vu l'état des rivières françaises, c'est pas terrible. Donc la pêche, le poisson, le mieux c'est de le laisser dans la rivière et de plus le consommer. Néanmoins, effectivement, quand on va à la rencontre des gens, bon, si on les écoute un petit peu, on se rend compte que les problématiques qu'ils ont, on peut, en discutant, essayer de les résoudre de manière sereine et pérenne sur le long terme. C'est ce que le SMARL fait depuis maintenant plus de 20 ans. Nous, on a de très bonnes relations, contrairement à ce qui peut être dit à droite ou à gauche, on a de très bonnes relations avec nos agriculteurs, on a de très bonnes relations avec la plupart des riverains, et force est de constater que même avec les petits moyens qu'on a, en écoutant et en dialoguant avec les gens, on arrive à des résultats qui sont quand même assez intéressants. Et pour en revenir un petit peu sur ce qu'on fait concrètement sur le terrain tous les jours au syndicat de la Largue, je prends l'exemple, on a des travaux là très récemment et en cours là, de restauration et d'entretien de cours d'eau qu'on réalise dans le but de l'atteinte du bon état écologique des eaux qui est fixé par l'Europe à 2015 ou échéance 2021 ou 2027. Et par exemple, ce qu'on fait là sur un tout petit cours d'eau affluent de la Largue sur laquelle les truites vont venir se reproduire à la perte de reproduction. Le premier travail que je vais faire, moi, c'est en passant, on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire sur le cours d'eau. Parce qu'il y a des endroits où on va avoir de la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est la végétation qu'on trouve le long des cours d'eau. On a des endroits où on va plus avoir de végétation. Par exemple, ça peut poser des problèmes de réchauffement des eaux, de diminution de l'oxygène dissous dans l'eau qui va être indispensable pour la vie des espèces sensibles. Et par exemple, en discutant avec les agriculteurs, ce qu'on a pu mettre en place, c'est de réinstaller des clôtures le long du cours d'eau en question. Hein, parce qu'on est sur des terrains agricoles qui sont tournés vers l'élevage. Donc on a beaucoup de pâtures et de vaches dans les prés encore. On a cette chance-là. Et le souci, quand on n'a plus de clôture, bah, les vaches, elles ont tendance à manger toute la végétation qui pousse. Donc, ce qu'on fait en discutant un petit peu avec les agriculteurs, c'est de réinstaller des clôtures le long du cours d'eau. Et entre ces clôtures et la rivière, bah, de réinstaller une végétation rivulaire pérenne et de qualité qui remplisse toutes ses fonctions écologiques pour l'amélioration de la qualité du cours d'eau et donc directement la qualité de l'eau et de l'eau du robinet, quoi.
Annie Dittmann.
Et c'est à ce moment-là, finalement, que sur 8 agriculteurs avec qui on s'est entendu, il y en a un qui fauche complètement les plantations qu'on a mises sur sa parcelle, n'est-ce pas Hugo ? Alors effectivement, ça c'est des choses qui peuvent également arriver. Il faut oser le dire, ça arrive, et c'est pour ça que je dis toujours, quand on veut vivre au bord d'un cours d'eau comme nous vivons nous, il faut deux choses, à part les compétences bien évidemment, il faut avoir la foi, c'est-à-dire y croire et la faire passer aux autres, et puis encore avoir un foie solide, parce que souvent, pour régler le problème, ça se passe d'une façon, effectivement, qui interpelle le foie. Mais ça, étant fait, c'est vrai que c'est pas toujours simple. À l'échelle d'un bassin versant, on a effectivement des problèmes. On a des pollutions aussi. La rivière, bien sûr, si on ne s'entend pas avec tous les acteurs de l'eau, comme l'a dit Hugo, on n'arrive à rien. Il faut faire en sorte de présenter l'enjeu du cours d'eau au niveau des inondations, par exemple, c'est la solidarité avant, amont, aval qu'il faut mettre en... Et là, pour faire ça, on doit faire un certain nombre de schémas avec l'accord de tout le monde. Et ça, c'est plutôt le travail de Nicolas, qui, lui, est un petit peu le maître de l'eau, de la qualité de l'eau, pour les années futures, en dressant des plans qui permettront, on l'espère, de donner de l'eau de qualité aux générations qui nous suivent. C'est ça, effectivement, le problème. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? On n'en sait rien, parce qu'on a quand même pas mal de petits problèmes qui viennent de ci, de là. C'est des gros travaux routiers qui se mettent en travers de nos projets. Ce sont des polluants qui n'ont rien à voir avec les polluants des agriculteurs, qui n'ont rien à voir avec les polluants des particuliers dans leur maison, mais par exemple avec les voitures. Hein, il y a un certain nombre de problèmes qui viennent effectivement de là. Donc, tout ça, plus des décharges encore, parce que les décharges, ça existe encore, et puis ça permet effectivement de donner de gros soucis dans certaines conditions. Alors, pour organiser tout ça sur le long terme, ben, il y a un sage, et le sage, c'est Nicolas, effectivement, qui est chargé à la fois de l'élaborer, de le monter, et surtout, effectivement, après de le suivre et de le mettre en œuvre.
Nicolas Fessel, qu'est-ce que ça veut dire dresser des plans sur l'eau ?
Alors, moi, mon travail consiste, justement, c'est pas moi qui dresse les plans, mais c'est une commission locale de l'eau. Donc là, elle réunit un certain nombre d'acteurs, les acteurs de l'eau, les usagers de l'eau, les agriculteurs, les voies navigables de France qui prélèvent de l'eau, les administrations d'État qui travaillent sur le thème de l'eau, et aussi un panel d'élus locaux du bassin versant, qui vont dessiner ensemble le paysage de l'eau de demain sur le bassin versant, tout en s'accordant avec les objectifs européens de bon état écologique des cours d'eau. Et donc cette commission a mis en place un premier SAGE en 1999, et suite à 10 années de travail, on travaille là sur la réfection de ce SAGE avec des nouveaux objectifs pour aller encore un cran plus loin. En gros, sur le premier SAGE, on a travaillé beaucoup sur les rivières, sur les milieux aquatiques. Et là, l'objectif du nouveau SAGE, c'est de les rendre un peu plus loin, c'est de le faire prendre en compte dans les documents d'urbanisme, que sur les nouveaux projets, on impacte moins les ruissellements, moins les zones humides, pour qu'on puisse, à l'avenir, ne pas faire du curatif sur la rivière, avoir une gestion globale sur le bassin versant, hors forcément du milieu aquatique, mais sur l'ensemble du bassin versant.
Ça veut dire intervenir très en amont dans tous les projets d'urbanisme ou autres ?
Oui, du coup, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la source du problème le plus en amont possible et de faire partager ce message à tous les décideurs du territoire pour qu'on évite après de devoir faire du curatif derrière.
C'est quelque chose qui se fait couramment, ça ?
Alors, c'est vers quoi on tend à travers tous les schémas qu'on a au niveau du SDAGE. C'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui se fait pour tout le bassin Rameuse sur notre secteur. Et nous, on va encore plus dans le détail pour les enjeux propres qu'on a chez nous. Et du coup, on a vraiment une discussion très ouverte avec tous les acteurs de l'eau. On a notamment beaucoup parlé de l'avenir de l'agriculture sur le bassin versant, parce que ici, on est un peu dans une zone charnière, on a encore pas mal d'élevage, mais c'est de la polyculture élevage, c'est-à-dire on a de la culture, on a du maïs, etc. Mais on a aussi de l'élevage qui valorise des prairies en zone inondable, en milieu humide. Et vu qu'on est sur un milieu charnier, on n'est pas en montagne où il n'y a que de l'herbe, mais ici, on a un élevage qui est un peu en danger de disparaître parce qu'on a des conditions d'élevage qui sont plus difficiles, on a des frais de collecte sur le lait industriel qui sont plus... Les sites de collecte sont plus loin, du coup, ça coûte plus cher de ramener le lait. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes au niveau de la profession agricole. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec la profession agricole pour valoriser les prairies, pour, à long terme, gagner en qualité de l'eau. Et le but, là, c'est de travailler de plus en plus sur la filière avec les autres collectivités pour voir comment on peut valoriser les produits de l'élevage plus localement et pouvoir pérenniser encore par la filière les prairies qui sont un peu le poumon pour le milieu aquatique.
Je vous pose la question à vous, alors Dany Dittmann, puisque Nicolas Fessel répond pas. Ça se fait couramment, ce genre de travail tellement fin, de discussion à la source ?
Hélas non, ça se fait. On en arrive finalement au syndrome du sirop de grenadine, quoi.
Explication.
Explication, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile que de garder de la grenadine dans une bouteille et de l'eau dans l'autre. À partir du moment où vous mélangez les deux, ça devient beaucoup plus difficile de les séparer. Eh bien, c'est exactement le problème que nous avons avec l'eau à l'échelle de tous les bassins. C'est-à-dire que quand on veut avoir effectivement une eau de qualité, la meilleure solution, c'est de ne pas la polluer à l'amont, de sorte à réduire au maximum toutes les opérations qui devraient se faire à l'aval et faire en sorte qu'on peut avoir un coût de l'eau qui ne soit pas grevé du coût des filtrations et de tout ce que les multinationales ont envie qu'on fasse. Elles seraient prêtes à nous mettre la grenadine avec l'eau pour qu'effectivement elles aient du boulot au bout. Eh bien là, non, nous on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est de discuter avec tous les acteurs de l'eau pour leur dire attention, si nous voulons de l'eau qui nous coûte le moins cher possible et qui assure notre santé plus tard, il faut faire en sorte qu'elle ne soit effectivement pas contaminée à l'amont. C'est pareil avec les inondations. Si chacun garde sa partie d'eau et d'inondation chez lui ou chez elle à l'amont, eh bien celui qui est à l'aval, il est tranquille. C'est ce que nous avons fait. Et c'est dans ce sens, effectivement, que Nicolas a été appelé à continuer à optimiser les inondations. Vous imaginez, optimiser, c'est un gros mot, ça. Hein. Ça veut dire faire en sorte que les inondations, qui sont un phénomène nécessaire pour la recharge des aquifères, pour la filtration des eaux, pour la bonne qualité des eaux, elles puissent continuer à se faire dans les meilleures conditions, sans impacter les habitations. Donc ça, c'est parfaitement réalisable, c'est des choses, effectivement, qu'on peut lancer. Alors, bien évidemment, l'histoire de la grenadine est marrante, parce que il y a tous les déchets dans l'affaire. Et quand on discute effectivement de cette problématique, qu'est-ce qu'on trouve dans les cours d'eau? Qu'est-ce qu'on trouve dans les nappes phréatiques? On trouve des quantités de déchets, de substances diverses, qui viennent alors de tous les azimuts, hein, que ce soit de l'agriculture, que ça vienne effectivement de chez les privés, que ça vienne de partout. Et c'est pour ça, effectivement, que la communauté de communes, là, dans ce sens, elle a fait un travail extrêmement conséquent pour aller effectivement vers une optimisation du tri des déchets, pour faire en sorte finalement qu'on ait vraiment le minimum des déchets qui se retrouvent dans l'environnement. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on avait 350 kilos de déchets par habitant et par an. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 78. Mais là, la grande spécialiste, c'est Audrey, qui pourra vous en parler, parce qu'elle gère, effectivement, c'est elle qui, à la communauté de communes, a la lourde tâche, effectivement, de piloter, effectivement, le bon déroulement de ces opérations et de faire en sorte que le territoire de la communauté de communes de Danemarie, dans lequel se trouve notre village Manspach, est sans doute, au niveau national, une référence. D'ailleurs, on a été remercié par les services d'éco-emballage qui ont reconnu qu'on était largement en tête par rapport à la qualité du tri et à ce qui est obtenu comme résultat pour le particulier.
Alors Audrey Bélair, tous ces déchets qui ne sont plus aujourd'hui dans les poubelles des particuliers, ils ne se retrouvent pas dans la nature, justement ?
Il y a des incivilités, comme ça peut arriver en fait partout. Mais on s'est rendu compte au final qu'on n'en a pas tant que ça. On a donc ce qu'on appelle le service de la Brigade Verte. Donc c'est une forme de garde champêtre qui œuvre donc sur notre territoire, nous donne un petit peu l'étonnage de ce qu'ils ramassent en déchets, donc en dépôts sauvages. Et on s'est aperçu que ces tonnages, en fait, étaient vraiment minimes parce qu'ils représentent moins de 1% de ce que nous, on collecte en globalité. Donc, il y a des incivilités, mais il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi il n'y en a pas tant que ça? C'est parce qu'au final, le fonctionnement qui est mis en place en porte d'Alsace, donc la pesée embarquée, au final, ne coûte pas si cher à l'usager. Elle coûte même moins cher qu'une taxe ou une redevance à l'habitant, par exemple. Et il y a effectivement aussi toute la prévention qui a été faite depuis déjà de nombreuses années au niveau de la communauté de communes avec la participation de la Maison de la Nature. Donc les gens sont initiés, ont pris vraiment l'habitude de faire le tri chez eux. C'est plus une contrainte, c'est un mécanisme de tous les jours. Et il faut savoir que le tri, donc tout ce qui est ramassé en bouteilles plastiques, papier carton, métaux, à la fin, en fait, nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est plus un déchet, ça devient un produit, une matière première. Et on a une participation d'éco-emballage qui nous rapporte environ 300 000 euros par an. Donc sur un budget d'un million, c'est pas mal quand même. Et ensuite, on a tout ce qui est reprise de la matière, qui est racheté par différents repreneurs pour le papier carton, pour les bouteilles plastiques, qui représente 100 000 euros. Ça fait que sur un budget d'un million d'euros, on a déjà plus que 600 000 euros qui sont à la charge de l'usager, on va dire en gros. Hein.
Et tout le reste, ça part à l'incinérateur ?
Ah non, alors on est aujourd'hui à 75 kilos par habitant et par an d'ordures ménagères ultimes, donc qui partent effectivement à l'incinérateur et qui sont transformées en valorisation énergétique.
Dany Dittmann.
Ah ben oui,
C'était une provocation pour vous, ça, ah ben le non, mot incinérateur.
Le mot incinérateur, oui, c'est une provocation pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient quand même d'une période où on avait 300 kilos par habitant et par an qui allaient. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus que 78 kilos effectivement, par habitant qui y vont. Et on espère bien pouvoir diminuer encore, et surtout diminuer le nombre d'incinérateurs. C'est ça qui est tout à fait fondamental. Nous avons quand même la profonde certitude de travailler pour l'intérêt global des gens. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte d'avoir toujours mieux, à quelque part, faire mieux si on veut, mais avec moins. Et c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on ressort quand même un coût moyen par habitant pour le service des ordures ménagères de 56 euros par habitant et par an, à l'échelle d'un territoire qui regroupe 15 000 habitants.
Et si vous le comparez à d'autres communes, parce qu'on ne connaît pas nécessairement le prix que ça coûte.
Ben oui, ben des communes des mêmes strates que nous, elles sont une moyenne de 130 euros par habitant. Et il y en a qui vont jusqu'à 200. On n'est plus du tout dans la même échelle de valeur. On a complètement changé, effectivement, on est en train de changer de paradigme. Et aujourd'hui, je pense que les 78 kilos qui restent, nous on voudrait bien les mettre ailleurs. Mais aujourd'hui, au niveau du recyclage, on a plein de recyclages qui se font en Allemagne, notamment, par exemple, les pots de yaourt, et ainsi de suite, et qui ne se font pas chez nous. C'est pas de notre faute. Et là, on a beaucoup de choses, effectivement, qui relèvent, notamment des fabricants d'emballages, qui pourraient, effectivement, largement faire l'effort. Aujourd'hui, notre formule, elle est, mieux tu achètes, plus tu tries, plus tu compostes, et moins tu payes. Voilà notre formule, là, sur la totalité de la communauté de communes de la Porte d'Alsace. Et on espère bien continuer à faire baisser encore la partie résiduelle de nos substances, sachant que le produit qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas.
On peut dire qu'au niveau du plastique, par exemple, les plastiques plats qui sont pour l'instant pas encore recyclés ou recyclables, il y a des travaux qui se font et les centres de tri, c'est au centre de tri de se mettre à la page, de trouver la technologie qui nous permettra à nous de pouvoir recycler également ces plastiques plats. Et j'ajouterais également qu'on veut aussi essayer au niveau de la communauté de communes de la Porte d'Alsace de diminuer encore le poids des résiduels ultimes, donc des ordures ménagères, en mettant en place notamment pour les collectifs par exemple, la collecte des biodéchets.
Qu'est-ce que c'est les biodéchets ?
Ça va un peu plus loin que le compost en fait. C'est un peu les mêmes déchets qu'on peut mettre dans le compost, sauf que ça va un peu plus loin. On peut mettre donc la viande.
Tous les végétaux, on a des végétaux de cuisine, ainsi de suite. Tout ce qui par fermentation, par oxydation, peut se réduire et devenir biodégradable, en fait, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a différentes filières, hein, parce que pour ça, aujourd'hui, on est en train d'aller vers des méthaniseurs, notamment, qui sont en train de se mettre en place aussi, et qui existent déjà, et qui aujourd'hui risquent de prendre une grosse fraction de ces produits qui aujourd'hui ne sont pas forcément pris parce qu'ils contiennent pas uniquement des substances qui peuvent être compostées. Quoi. Il va de soi que pour aller vers ce genre de process, il convient effectivement d'avoir un tri à l'amont qui soit parfaitement précis. Il ne faut pas retrouver du plastique dans les produits qui vont dans la fermentescible, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, nous, on piaffe un peu d'impatience parce que, à quelque part, je dis, il y en a marre de la dynamique dans la sclérose. Parce que je vois que ce soit au niveau politique ou au niveau technique ou ailleurs, on a des solutions, on sait très bien qu'on pourrait les appliquer, mais on les applique pas. Parce que ça nécessite de sortir un petit peu des habitudes, du train-train quotidien, et ainsi de suite. Alors que bon sang, la vie, elle est devant nous, et puis la Terre ne nous attend pas pour qu'on lui donne les solutions qui lui permettraient de nous tolérer. C'est pas qu'elle a besoin de nous pour survivre, mais c'est que nous, on a besoin d'elle en bon état pour pouvoir continuer à exister. Donc ça, c'est un sujet particulier. Et je crois que la problématique des produits résiduels est particulièrement forte là-dedans, puisque vous avez cette dualité entre le déchet et l'eau, qui aujourd'hui, justement, est quand même un facteur tout à fait déterminant pour l'avenir, surtout si l'on y ajoute encore le phénomène climatique avec l'augmentation, effectivement, de la température et la baisse des taux d'oxygène et tout ce qui s'ensuit. On est dans une solution où on a quand même intérêt à se bouger les fesses. Voilà, c'est ça.
Alors, le phénomène climatique, en règle générale, on l'associe beaucoup aux questions d'énergie.
Ah oui, bien sûr. Le phénomène climatique, on l'associe aux questions d'énergie. Là aussi, il y a un travail très conséquent à faire. Mais ça demande également à tout un chacun de réfléchir un petit peu. C'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, consommer moins. Parce que ça sert à rien de vouloir effectivement trouver des manières de fabriquer de l'énergie d'une autre façon si on veut continuer à consommer autant ou plus. Il faut d'abord prendre les modes qui nous permettent effectivement de consommer moins. C'est ça qui est déjà très important. Alors bien évidemment, il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent de le faire. Il faut qu'on s'engage là-dedans. Et c'est vrai qu'on a essayé un certain nombre de choses à l'échelle de notre territoire et de notre village. On est passé à ce mode d'économie, on va dire ça comme ça, en produisant de l'énergie électrique par le photovoltaïque, en construisant des bâtiments à énergie positive, comme la mairie. Et tout ça, ça montre qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, avec forcément pas plus au niveau argent, mais permettre aux générations futures de pouvoir disposer de services qui sont équivalents à ce qu'ils peuvent être aujourd'hui, mais en faisant en sorte de regarder par l'autre bout de la lorgnette.
Vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu quelques-unes des réalisations. Je pense au toit de l'église, par exemple. Vous savez que j'ai une affection particulière pour ce toit d'église.
Non, c'est intéressant, puisque avec l'entente notamment des autorités ecclésiastiques et tout, j'ai pu transformer effectivement l'église en centrale photovoltaïque. Et aujourd'hui, effectivement, cette centrale photovoltaïque a été construite notamment à base des produits qui ont été récupérés dans la pesée embarquée au niveau des déchets. Donc avec le verre notamment, des bouteilles et ainsi de suite, on a fait les capteurs solaires. Avec le plastique, des bouteilles de lait et ainsi de suite, on a fait les tuiles, les ardoises du restant de l'église. Et aujourd'hui, effectivement, on a été surpris parce que le rendement que nous avons obtenu au niveau de l'église nous a permis maintenant, effectivement, de construire, de mettre en place une mairie à énergie positive qui, grâce à cet apport énergétique de l'église, ne coûte pas un centime aux contribuables.
Pas un centime ?
Non, il faut dire ce qu'il y a, c'est comme ça. Je crois que c'est toutes des choses, effectivement, qu'on refuse de voir, mais en additionnant toutes les choses les unes au bout des autres, on se rend compte qu'à l'échelle d'une collectivité, on peut faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de privés qui se sont lancés. J'en ai un qui est en autarcie énergétique complète dans le village. On en a d'autres qui ont mis des capteurs solaires ou des capteurs thermosolaires. Et puis, ce qu'on a fait également, ça, je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. On a pu couvrir le toit, effectivement, de la grange du Moulin sur un mode de coopérative sociale solaire qui a permis à des gens d'investir leurs deniers privés dans la production d'énergie électrique pour le bien-être de la collectivité. Et ben là, je vais pas en parler davantage. On a Georges qui est à côté de nous, là, Georges Audras. C'est à lui qu'il faut lui demander de parler de tout ça, quoi.
Justement, Georges Audras, c'est pour ça que vous êtes venu vous installer ici. Vous avez un bureau énergie partagée. Et ici, ça doit être le paradis pour vous.
Plus ou moins, disons. Il y a des atouts localement. L'Alsace est assez bien ensoleillée. Et puis, en tant que coopérative de production d'électricité, on est bien soutenu par la région Alsace. Bien sûr, il y a quand même néanmoins moins de soleil que dans le sud de la France. Mais on trouve des solutions. Donc nous sommes arrivés sur Manspac par l'intermédiaire justement du premier projet qui était le projet de l'église auquel on a contribué en tant que bureau d'études. Et c'est comme ça qu'en connaissant Danny Dittmann, il nous a proposé une toiture pour la coopérative pour laquelle je cherchais désespérément un toit pendant 2 ans. Et donc on a pu faire notre première réalisation en tant que coopérative d'investissement en énergie renouvelable sur le toit d'une grange appartenant à la commune, qui a la particularité d'être bien située, puisque c'est un lieu hautement écologique, puisqu'elle abrite aussi un marché bio mensuel et une AMAP. Après ce premier projet sur Manspac, on a pu en faire d'autres dans la région, 7 kW, 9 kW. Donc là, sur la grange, c'était déjà 30 kW. Et cette année, on est en train de mettre en service une autre centrale de 32 kW sur une entreprise. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on a réalisé en coopération avec une coopérative allemande un ensemble de 4 centrales de 100 kW, financées donc 50% par l'Allemagne, 50% par la France. Donc une coopérative allemande, le fonds d'investissement énergie partagée, notre coopérative et toujours avec l'aide de la région Alsace. Donc c'est un peu une première dont on est assez content.
C'est quoi ce marché d'Annie Dittmann et cet AMAP?
Le marché, ben c'est bien simple, on avait ce fameux moulin. Ce moulin de Manspach qu'on a racheté il y a quelques années pour le moulin à traction animale qu'il renferme et qu'on est en train de retaper tous les ans avec des chantiers de jeunes. Ça, c'est important. Et donc, mon adjoint, Géry Monod, a donc eu l'initiative de lancer dans la cour de ce moulin, qui est un petit peu le centre de l'agitation, disons, de la volubilité culturelle de notre village, a eu l'idée, effectivement, de se lancer dans la mise en place d'un marché bio et fermier, donc qui se passe tous les mois et qui remporte demeurant un très vif succès. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que autour de ce moulin, si ce marché se fait, c'est qu'autour de ce marché, il y a plusieurs choses qui se greffent. Mais là, je vais laisser Géry en parler. Il le fera mieux que moi.
Géry Monod.
Donc, on avait mis en place ce marché dans le but d'animer ce lieu. Parce qu'en fait, c'était un lieu qui, bon, on va dire qu'il dormait, mais enfin, c'était un, voilà, il fallait un petit peu faire quelque chose. Donc, on a eu l'idée en 2001, donc au conseil municipal, de lancer un marché. Et en même temps, il y a eu une autre idée qui a germé, c'est la bibliothèque. Et on a développé les deux sujets en même temps. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne ensemble, c'est-à-dire le marché et la bibliothèque.
Le même jour ?
Oui, parce qu'en fait, bon, la bibliothèque, elle fonctionne indépendamment. Mais quand il y a le marché, on a une animation au marché, on a une buvette pour rendre la chose plus conviviale. Parce qu'au départ, c'était aussi de faire un lieu de rencontre. Ce qui a très bien fonctionné dès le départ, parce qu'on a eu des personnes âgées qui venaient boire le café, qui restaient tout l'après-midi, etc. Et il fallait quelqu'un pour faire la buvette, animer. Donc on a pris les gens de la bibliothèque. Et aujourd'hui, on a une bibliothèque qui même va jusqu'à venir au marché. Parce qu'on a une bibliothèque qui fonctionne dans un local précis dans la commune. Mais bon, on déplace la bibliothèque au marché. On a une fois par mois un stand de la bibliothèque qui est là, quoi. Donc les gens peuvent venir à la fois faire des courses au marché et repartir avec des livres qu'on leur prête. Voilà.
Je voulais rajouter finalement que ce côté inattendu, culturel, qui passe de l'alimenteur à la lecture, a fait en sorte que l'animation au niveau du marché se fait par des musiciens bénévoles qui viennent animer effectivement ce marché. Donc on voit finalement que dans toute cette affaire, il n'est pas question d'argent, en fait. C'est la relation humaine avec les atomes crochus des uns par rapport aux autres et tout, qui font que les choses s'engrènent, qu'on avance. Et bien évidemment, je me dis qu'à quelque part, comme dans toutes les actions qu'on a dans la vie, il y a des moments où il peut y avoir un petit accrochage, il peut y avoir un moment où un chaland ne vient plus, mais après il y en a un autre qui vient, et ainsi de suite. Mais c'est la vie qui est comme ça, et c'est ce qui fait effectivement tout l'intérêt de cette prise de conscience de la collectivité au travers de toutes les relations qu'elles peuvent établir à l'échelle d'un territoire. Alors là, c'est important parce que nous, ce qui nous manquait, tout ça, c'est bien sympa de faire un marché fermier bio. Mais est-ce que ça a un sens? Puisqu'un marché bio et fermier, c'est un marché en boucle courte. Et justement, on était en attente du complément de quelque chose. Et ce complément, eh bien, il est venu par lui-même. C'est-à-dire que il y a un jeune qui est arrivé un jour à Manspach et qui m'a dit, écoutez, monsieur le maire, j'ai fait le tour un petit peu de tous les vergers expérimentaux, bio et ainsi de suite au niveau de la France, un peu comme ça. Puis maintenant, je voudrais m'installer moi, mais je trouve de terrain nulle part. Donc, pour éviter qu'il ait des déceptions au niveau, effectivement, de son affaire, j'ai suggéré qu'on l'installe au milieu du village. pour éviter les vols, les choses comme ceci. Et on avait 2 hectares à peu près de terrain constructible qui était au milieu, mais on n'avait pas plus besoin de vendre ces terrains qu'autre chose. Hein. Donc c'était très intéressant de proposer à Fabrice de prendre ces terrains en location, bien évidemment, puisque les terrains pour nous, ils ne mangent pas de pain, au contraire, et de pouvoir lui permettre de se lancer dans son activité. Depuis, les choses ont bougé. Il a été rejoint par sa jument Agathe, et puis par de nombreux amis, et puis par sa compagne, et puis tout ce qui tourne autour, et que maintenant, bon, on vient lui proposer du terrain. Et voilà, donc ça, il va vous le raconter mieux que moi. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, et c'est un peu cet AMAP qu'il a monté, qui crée le liant entre toutes les actions effectivement qu'on a mis en place effectivement sur le territoire.
Vous avez ce sentiment-là aussi, Fabrice Maillard ?
Pas à ce point-là, pas d'être autant le liant en tout ça, mais enfin peut-être, oui, je ne suis pas conscient. Après, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le village, avec le voisinage, etc.
Vous avez eu tout de suite beaucoup de candidats pour votre AMAP ?
Oui, ça j'ai eu de la chance. Hein. Bon, c'était une des premières AMAP vraiment dans le coin, enfin dans les 20 km à la ronde ou par là. Donc on avait fait une réunion en fait à la Maison de la Nature, ici même, hein, qui a été aussi le point de départ de l'AMAP en fait. Et donc on avait dès la première réunion environ les 80 personnes nécessaires au démarrage de l'AMAP. Donc à partir de là, il y a eu cette première réunion, et puis on demande en AMAP si des gens intéressés pour le comité de soutien. Donc il y a une petite dynamique qui s'est créée à partir de là, avec une autre AMAPienne, Karine Barral, qui voulait déjà à l'époque lancer une AMAP, mais ils n'avaient pas trouvé d'agriculteur. Donc ça s'est bien bouclé, quoi. Moi, je cherchais donc à m'installer. J'avais rencontré Danny Dittmann, qui était donc mon prof de biologie au collège, et que voilà, j'ai repris des études dans l'agriculture pour le maraîchage bio. Donc, il m'a dit de passer et voir. On a fait le tour des terrains, etc. Donc, depuis maintenant, ça fait 5 ans. La commune nous met aussi à disposition donc l'ancienne étable du moulin à huile dont on parlait avant avec le photovoltaïque comme lieu de distribution. Je distribue uniquement dans le village en fait. Hein. Les gens viennent en moyenne 5 km de rayon, ou plus loin 10.
Quel bilan est-ce que vous en tirez ? Vous, c'est votre première expérience ?
C'est ma première expérience. Voilà, je suis plutôt content. Hein. Au départ, on a les idées, on a le projet, mais après le concrétiser, c'est plus difficile. Hein, entre les terrains, les moyens financiers, les équipements, etc. J'avais toujours un projet axé vers aller vers des méthodes pas trop brutales envers le sol, etc. Limiter le travail du sol. L'attraction animale m'intéressait aussi parce que à cause des problèmes de compaction et même du pétrole, l'autonomie propre au pétrole, etc. Donc là, maintenant, on est passé en traction animale il y a 2 ans. Donc, on pense pas que là, tout le terrain est complètement cultivé à cheval. Le tracteur n'y fait plus rien du tout. Donc ça, je suis vraiment content. Tout en ayant des récoltes. Je suis largement le rythme de croisière des autres AMAP, quoi. Quand je vois mes paniers, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien. Et puis, depuis, j'ai eu d'autres terrains. Donc, qui étaient encore... ces terrains d'un autre agriculteur en bio, donc c'est lui qui me faisait la grosse préparation de sol avec l'épandage de compost. Et l'entretien des cultures était fait à cheval. Il y a un hectare aussi là-bas, 1,5 hectare, il y aura cette année. Et donc on a la moitié qui est faite cette année, maintenant complètement à cheval là-bas. Et donc il reste plus beaucoup de tracteurs. Et puis l'année prochaine, là je contacterai un deuxième cheval. On devrait s'associer avec ma compagne, Jeanne Schnebelen. Donc il vient des chevaux, son père est éleveur de Comtois. Donc on devrait faire toutes ces surfaces ensemble avec 2 chevaux sans tracteur. Tous les ans, je vais faire des petits stages de formation autour de, on va dire, de la permaculture, qui est une notion assez vaste, quoi, pour diminuer le travail du sol. Alors, j'ai des parcelles qui sont en non-travail du sol depuis 2 ans total. Il n'y a plus aucun outil, quoi, pour favoriser la vie du sol et diminuer donc le travail mécanique. Et il y a des choses intéressantes qui se passent, il y a des bons résultats, il y a des fois des difficultés à résoudre, surtout au niveau de suivi de l'enherbement en fait, puisque on est des fois
envahi
par la mauvaise herbe. Donc voilà, et qu'on n'a pas droit au désherbant. Et bon, ça me passe même pas par la tête d'en utiliser, quoi. Mais faut trouver donc d'autres choses. Quand je suis vraiment envahi, je fais des occultations avec des bâches, donc l'herbe va faner, et puis On peut éventuellement ressemer directement là-dedans, quoi, semis sous couvert. Après, des fois, je fais des fauchages avec le cheval aussi, quoi. J'ai une faucheuse, etc. Donc, je fauche. Je passe la charrue, mais seulement dans les sillons pour recouvrir les billons. Donc, le projet se met en place petit à petit. Faut du temps.
Cyril Breton, vous êtes un naturaliste. Vous faites des inventaires dans la région pour Natura 2000. Enfin, vous êtes naturaliste, ça vous fait froncer les sourcils.
Je travaille sur des domaines très variés, donc je ne suis pas seulement naturaliste. Je travaille sur la gestion de l'environnement avec la conservation d'un environnement favorable aux espèces, avec la conservation d'habitats, de prairies, de haies, de boisements de cours d'eau. Et donc tout ça, c'est favorable à certaines espèces très variées comme des mammifères, des poissons, des libellules ou plein d'autres.
Et si je vous demande de faire un inventaire de la faune d'écologistes qu'on a entendue aujourd'hui, autour de cette table, est-ce que vous diriez que l'environnement est favorable ici?
Oui, l'environnement est favorable. Il y a la présence de prairies, avec le calmant des mares. Il y a un cours d'eau dont la qualité s'améliore constamment grâce au travail de mes collègues. Donc, il présente plusieurs espèces aquatiques remarquables, comme certaines espèces de poissons, comme le chabot, ou plusieurs écrevisses qui ont été redécouvertes récemment, comme l'écrevisse à pattes blanches, l'écrevisse à pattes rouges, ou même comme une moule, Uniocrassus, qui sont présentes sur le territoire. Et il y a plein d'autres espèces remarquables sur le site.
Daniel Dittmann, vous, qu'est-ce que vous diriez de cet environnement dans lequel on voit une très grande diversité de personnes et de personnalités?
Ben, vous savez, ça, c'est tout à fait l'expression de la vie. C'est se donner effectivement comme contrainte, parce que ça peut être une contrainte, hein, de toujours écouter les autres. De jamais dire on a des leçons de recevoir de personne, on a des leçons de recevoir de tout le monde. Et puis moi, c'est cet enrichissement que je cherche au contact de toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui nous permettent effectivement sur le territoire de faire passer une quantité d'informations. Ce n'est même plus une contrainte. Tout à l'heure, vous avez vu Cyril, ça lui a pas plu que vous lui ayez traité de naturaliste. Lui, c'est pas un naturaliste, c'est un environnementaliste, c'est pas pareil. Hein, il y a une grosse différence. Naturaliste, il utilise des épingles pour piquer les papillons sur une planche. C'est pas lui, ça. Hein, lui, il est contraire, c'est la vie qui le réjouit. C'est ça qui est important. Alors, il va de soi que sur un territoire comme celui-là, on s'est rendu compte qu'il faut jamais vouloir parcelliser la nature. Il faut toujours traiter la nature dans son ensemble. Avec, d'une part, une grande tolérance, ça c'est important, parce que vous pouvez pas faire comprendre à tout le monde en même temps que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller plutôt que dans l'autre. Mais petit à petit, avec le lissage des ans, eh bien, on se rend compte que les choses, tout doucement, se mettent à l'unisson. Et commence à nous donner quand même de super résultats, quoi. Quand on se trouve avec un castor, ou bien qu'on se retrouve effectivement avec une lamproie de plein air dans le cours d'eau, ou bien qu'on voit des espèces d'oiseaux qui reviennent maintenant et qui sont de nouveau présentes sur le coin, ça fait quand même super plaisir, quoi. On a encore fait l'année dernière avec la Maison de la Nature un inventaire par rapport aux chauves-souris. C'était impressionnant parce que sous les ponts de la rivière, là, en l'espace de quelques dizaines de minutes, on a pris 7 espèces de chauves-souris différentes. Alors que on pouvait être sûr que, vu la concentration, la densité de population que l'on a sur le territoire et la proximité de décharges industrielles proches, hein, en Suisse, là au-dessus, à Bonfol, on a des endroits qui pouvaient carrément menacer notre territoire. On avait une décharge à Retzwiller. Grâce à l'action de tout le monde y a mis son petit coup de gueule, quoi, c'est important. On s'est frotté, on se frotte encore parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. On dit, ouais, il y en a que pour l'environnement, il y en a que pour l'eau, il y en a que pour l'écologie. Bon, alors, je dis simplement, mais rien ne vous empêche d'en faire autant que nous sur un autre sujet. Mais je crois que là, aujourd'hui, l'eau, c'est un domaine qui demande absolument à être défendu parce qu'on n'a pas conscience de la vitesse de dégradation à laquelle on est exposé dans les prochaines années lorsqu'on conjugue avec les problématiques de pollution les problèmes effectivement d'évolution du climat.
Et là, vous êtes revenu à une vision très environnementaliste, effectivement. Oui. Mais moi, il me semble que tout de même, La conclusion qu'on peut tirer des conversations qu'on a eues avec les uns et les autres, c'est que ces questions d'environnement, elles sont aussi au cœur de bien d'autres problématiques, des problématiques sociales, des problématiques agricoles, des problématiques d'énergie.
Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez faire venir une brasserie, s'il n'y a pas une eau d'excellente qualité, elle ne vient pas. Que ce soit effectivement au niveau agricole, que ce soit au niveau économique, c'est absolument déterminant. Que ce soit les Japonais qui sont venus s'installer en Alsace il y a quelques années, ils sont venus s'installer en Alsace à cause de l'environnement. Ils trouvaient ici un environnement qu'ils n'avaient effectivement pas ailleurs. Donc je crois que l'environnement, c'est la planète. C'est la qualité de la planète qui définit l'avenir effectivement de l'humanité à une échelle très large. Alors ce qui serait bien effectivement, c'est que dans nos politiques, on inverse les choses. On ne mette pas l'environnement comme la roue de secours de toutes les choses énumérées, mais qu'on mette d'abord l'environnement, qui sous-entend pas seulement l'environnement végétal, mais l'environnement vivant, l'environnement social, l'environnement économique, et qui, à chacun des niveaux, nécessite des équilibres pour perdurer. Et c'est ces équilibres que nous, à l'échelle de notre petit territoire, en faisant que l'eau coûte moins cher, que les déchets coûtent moins cher, qu'on puisse faire un certain nombre de choses avec des boucles courtes qui soient plus sains, qui vous font des économies de santé. Bref, toutes ces choses-là, ça permet effectivement, en termes sociétal et social, de favoriser la démarche vers un avenir qui est moins consommateur, on va dire ça comme ça, plus économe, mais quand même beaucoup plus prometteur d'avenir. C'est ça l'enjeu de demain. Et tant qu'on n'aura pas compris, effectivement, qu'il faut avant tout commencer par traiter la problématique de durabilité environnementale et passer du développement durable, non à l'évolution durable, hein, parce que le développement, il induit le piétinement sur l'autre. On ne peut pas grossir, se développer sans marcher sur l'autre. Alors qu'on peut évoluer sans écraser l'autre. C'est pour ça que je préfère de loin le mot « évolution durable » au mot « développement durable », surtout dans un monde, effectivement, où la croissance ne me semble plus vraiment d'actualité.
Cette émission est terminée, vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un lien vers la ville de Manspach. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse terre à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Stéphane Desmonts, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.